Chapitre 26. Nous sommes restés encore 2 heures dans la salle de crise ce soir-là, à examiner point par point le plan que j'avais ébauché pendant le dîner, conscient que nous devions faire le maximum pour éviter un massacre en Libye tout en limitant autant que possible les risques pour notre armée déjà surmenée. J'étais prêt à tenir ma position face à Kadhafi et à donner au peuple libyen la possibilité de constituer un nouveau gouvernement. Mais il faudrait que cela se fasse rapidement, avec le soutien de nos alliés et selon un ordre d'opération clairement défini. J'ai dit à mon équipe que je voulais suivre la proposition de Susan Rice, en convainquant les Français et les Britanniques de retirer leur projet de zone d'exclusion aérienne, afin que nous puissions présenter devant le Conseil de sécurité notre propre résolution, par laquelle nous demanderions un mandat élargi pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les civils libyens. Pendant ce temps, le Pentagone mettrait sur pied une campagne avec une stricte division des tâches entre les alliés. Durant la première phase, les États-Unis contribueraient à empêcher Kadhafi d'avancer sur Benghazi et élimineraient ses systèmes de défense anti-aérienne. Une mission qui nous convenait parfaitement, puisque nous avions les plus grandes capacités opérationnelles. Ensuite, nous passerions le relais aux pays européens et arabes. Les avions de combat européens seraient chargés des frappes aériennes permettant d'éviter que les forces de Kadhafi s'en prennent aux populations civiles, autrement dit d'instaurer une zone d'exclusion aérienne et terrestre, tandis que nos alliés arabes seraient surtout responsables du soutien logistique. Étant donné la proximité géographique de l'Europe avec l'Afrique du Nord, nous comptions demander aux Européens de financer l'essentiel de l'assistance qui servirait ensuite à reconstruire la Libye et à l'aider dans sa transition démocratique une fois que Kadhafi aurait quitté le pouvoir. J'ai demandé à Gates et à Mullen ce qu'ils en pensaient. Même s'ils renâclaient toujours à s'engager dans une mission essentiellement humanitaire alors que nous avions encore 2 guerres sur les bras, ils estimaient que c'était un plan susceptible de réussir, qui limitait les coûts et les risques pour nos militaires et qui devait pouvoir mettre un coup d'arrêt aux forces de Kadhafi en l'espace de quelques jours. Suzanne et son équipe ont travaillé toute la nuit avec Samantha, et le lendemain, nous avions un nouveau projet de résolution à soumettre au Conseil de sécurité de l'ONU. Suzanne a immédiatement entrepris de rallier ses homologues aux Nations Unies autour du projet. Puisque la grande inconnue concernait la Russie et son droit de veto, nous espérions que notre travail des 2 dernières années avec Dimitri Medvedev nous aiderait à gagner son soutien et avons souligné que, au-delà de l'impératif moral dictant de tout faire pour prévenir un massacre, la Russie autant que les États-Unis avaient intérêt à éviter une guerre civile prolongée en Libye qui risquerait de transformer le pays en vivier pour le terrorisme. Il était évident que Medvedev avait de sérieuses réserves concernant une action militaire dirigée par l'Occident pour amener un changement de régime, mais il n'avait pas non plus envie de faire le jeu de Kadhafi. Pour finir, le 17 mars, le Conseil de sécurité a approuvé notre résolution par 10 voix à 0, avec 5 abstentions, dont la Russie. Sans perdre un instant, j'ai appelé Sarkozy et Cameron. Dissimulant à peine leur soulagement devant la perche que je leur tendais et qui allait les sortir du pétrin où ils s'étaient fourrés, ils ont accepté notre solution avec enthousiasme. Quelques jours plus tard, tous les éléments de l'opération étaient en place. Les Européens étaient d'accord pour se ranger sous le commandement de l'OTAN et les pays arabes, Jordanie, Qatar et Émirats, étaient assez nombreux dans la coalition pour éviter que cette mission soit perçue comme une nouvelle guerre des puissances occidentales contre le monde musulman. Quand le Pentagone a été prêt à recevoir mon ordre de déclencher les frappes aériennes, j'ai publiquement offert une dernière chance à Kadhafi en l'invitant à retirer ses troupes et à respecter le droit du peuple libyen à manifester pacifiquement. J'espérais que lorsqu'il verrait que le monde entier était contre lui, son instinct de survie se réveillerait et qu'il tenterait de négocier sa fuite vers un pays tiers acceptant de l'accueillir où il pourrait finir ses jours avec les millions en pétrodollars qu'il avait au fil des ans envoyés sur divers comptes en Suisse. Mais manifestement, Kadhafi avait rompu ses derniers liens avec la réalité. Il se trouve que je devais partir ce soir-là pour le Brésil, première étape d'une tournée de 4 jours et 3 pays visant à redorer le blason des États-Unis en Amérique du Sud. La guerre d'Irak, ainsi que la politique de Bush vis-à-vis de Cuba et des pays producteurs de drogue, n'avaient pas été très bien reçus dans la région. Le plus beau dans tout cela, c'est que nous avions choisi ce moment précis parce qu'il tombait pendant les vacances de printemps de Malia et Sacha, et que nous allions ainsi pouvoir voyager en famille. Nous n'avions pas imaginé, sur le moment, qu'une guerre serait en train d'éclater. Quand Air Force One s'est posée à Brasilia, Tom Donilon m'a informé que les troupes de Kadhafi n'avaient pas reculé d'un pouce. Au contraire, elles avaient commencé à pénétrer dans le périmètre de Benghazi. « Vous allez sûrement devoir donner l'ordre dans la journée », a conclu Tom. Quelles que soient les circonstances, il n'est jamais simple de lancer une opération militaire pendant une visite à l'étranger. Le fait que le Brésil évite généralement de prendre parti dans des conflits internationaux et qu'il se soit abstenu lors du vote de notre intervention au Conseil de sécurité ne faisait qu'aggraver les choses. C'était ma première visite officielle en Amérique du Sud et ma première rencontre avec Dilma Rousseff, la présidente nouvellement élue du Brésil. Économiste de formation, elle avait été directrice de cabinet de son charismatique prédécesseur, Lula da Silva, et souhaitait notamment améliorer les relations commerciales entre nos deux pays. Entourée de ses ministres, elle a réservé un accueil chaleureux à notre délégation lors de notre arrivée au palais présidentiel, un édifice aérien et moderniste doté de contreforts en forme d'aile et de hautes parois vitrées. Nous avons ensuite passé plusieurs heures à discuter de l'approfondissement de notre coopération dans les domaines de l'énergie, du commerce et de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais alors que dans le monde entier les spéculations sur notre intervention en Libye allaient bon train, les tensions sont devenues difficiles à ignorer. J'ai présenté mes excuses à Rousseff pour l'inconfort que cette situation pouvait lui causer. Elle a haussé les épaules, me fixant du regard avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude. « Nous nous en remettrons », a-t-elle répondu en portugais. « J'espère que ce sera le moindre de vos soucis. » Au terme de mon entretien avec Rousseff, Tom et Bill Daley m'ont poussé dans une salle de réunion en m'expliquant que les forces de Kadhafi continuaient leur progression et que nous n'aurions pas de meilleur moment pour donner l'ordre. La procédure de déclenchement officiel des opérations militaires supposait que j'appelle Mike Mullen. Sauf que le système de communication mobile dernier cri et sécurisé qui devait me permettre d'exercer ma fonction de commandant en chef depuis n'importe quel endroit de la planète ne fonctionnait pas. « Je suis désolé, monsieur le président, nous avons du mal à établir la connexion. » Tandis que nos techniciens s'affairaient à chercher des câbles mal branchés et des portails défectueux, je me suis installé dans un fauteuil et j'ai pioché une poignée d'amandes dans un bol posé sur une desserte. Il y avait longtemps que j'avais cessé de me tracasser pour les aspects logistiques de la présidence, car je me savais constamment entouré par une équipe de grande compétence. Je voyais cependant des gouttes de sueur se former sur tous les fronts. Bill, dont c'était le premier voyage en tant que directeur de cabinet et qui était évidemment sous pression, frisait l'apoplexie.
« Mais c'est pas croyable !» disait-il d'une voix de plus en plus stridente.
J'ai regardé ma montre. 10 minutes s'étaient écoulées et notre rendez-vous suivant avec les Brésiliens aurait déjà dû commencer. Je me suis tourné vers Tom et Bill, qui paraissaient tous deux prêts à étrangler quelqu'un. « Pourquoi on n'utiliserait pas votre portable, tout simplement ?» ai-je demandé à Bill. « Pardon ? Ce ne sera pas long. Vérifiez juste que vous avez assez de réseau. » Après conciliabule de l'équipe pour décider s'il était bien judicieux de me faire passer par une ligne non sécurisée, Bill a composé le numéro et m'a tendu son téléphone. « Mike, ai-je fait ? Vous m'entendez ?
Je vous entends, monsieur le président.
Vous avez mon autorisation. » Par ces 4 mots, prononcés dans un appareil qui avait probablement servi à commander des pizzas, je venais d'engager pour la première fois de ma présidence une nouvelle intervention militaire. Pendant les 2 jours suivants, alors même que les bateaux américains et britanniques commençaient à tirer des missiles Tomahawk sur les défenses aériennes de la Libye, nous avons néanmoins respecté l'essentiel de ma feuille de route. J'ai rencontré un groupe de chefs d'entreprise américains et brésiliens pour évoquer le développement de notre relation commerciale. J'ai assisté à un cocktail avec des hauts fonctionnaires et pris des photos avec les familles du personnel de l'ambassade américaine. À Rio de Janeiro, je me suis exprimé devant 2000 personnalités de la vie politique, civile et entrepreneuriale, au sujet des défis et des opportunités qui se présentaient aux États-Unis et au Brésil, les 2 plus grandes démocraties du continent. En parallèle, je restais constamment en lien avec Tom, qui m'informait de la situation en Libye, et j'imaginais les scènes qui se déroulaient à plus de 8000 kilomètres de là. Les missiles qui fendaient l'air, les explosions en cascade, les gravats et la fumée, et les partisans de Kadhafi qui levaient les yeux vers le ciel en évaluant leurs chances de survie. Malgré ma distraction, je gardais à l'esprit que ma présence au Brésil était importante, surtout pour les Afro-Brésiliens qui comptaient pour plus de la moitié de la population du pays et qui, bien que cela soit souvent nié, enduraient le même type de racisme endémique et de pauvreté que les Noirs américains. Avec Michel et les filles, dans une favela immense de l'ouest de Rio, nous avons visité un centre social où nous avons admiré des danseurs de capoeira et où j'ai joué au football avec des gamins du coin. À notre départ, des centaines de personnes s'étaient rassemblées à l'extérieur du centre et malgré les objections du Secret Service, j'ai persuadé les agents de me laisser sortir pour les saluer. Au milieu de cette rue étroite, j'ai fait signe à des visages noirs, bruns et cuivrés. Les habitants du quartier, dont de nombreux enfants, se massaient sur les toits et les petits balcons et contre les barrières de police. Valérie, qui voyageait avec nous et assistait à la scène, m'a souri quand je suis revenu et m'a dit « je parie que ça a changé à jamais la vie de ses gosses. Je me demandais si elle avait raison. C'était ce que je me disais à mon entrée en politique, et c'était un des motifs que j'avais donné à Michel pour justifier ma candidature à la Maison-Blanche. Un président noir pourrait considérablement modifier l'image que les enfants et les jeunes de la Terre entière se faisaient d'eux-mêmes et de leur monde. Bien sûr, je savais que, quel que soit l'impact de ma courte visite sur ces enfants des favelas, et même si elle les incitait à relever la tête et à oser rêver, elle ne ferait rien contre la pauvreté accablante qu'ils devaient affronter tous les jours. L'enseignement médiocre, l'air pollué, l'eau empoisonnée, et le chaos dans lequel ils baignaient de manière générale. J'estimais que jusque-là, j'avais eu une influence négligeable sur le quotidien des pauvres, même dans mon propre pays. J'avais passé un temps monstre à me contenter d'empêcher que leurs conditions de vie, aux États-Unis comme ailleurs, se dégradent encore plus. M'assurer qu'une crise mondiale ne les éjecterait pas de leur position déjà précaire sur le marché du travail, mais forcer d'infléchir un réchauffement climatique susceptible de provoquer des tempêtes ou des inondations meurtrières, et dans le cas de la Libye, tenter de faire obstacle à un forcené prêt à massacrer sa population. Je me disais que ce n'était quand même pas rien, tant que je n'essayais pas de me persuader que c'était suffisant. À bord de Marine One, pendant le bref trajet de retour à l'hôtel, nous avons longé la superbe chaîne de montagnes boisées qui borde la côte, et la célèbre statue du Christ Rédempteur, haute de 30 mètres et perchée au sommet du Corcovado, a brusquement surgi dans notre champ de vision. Nous avions prévu de visiter le site ce soir-là. Je me suis penché vers Sacha et Malia et leur ai montré au loin la silhouette au bras tendu dans sa robe blanche sur le bleu du ciel. « Regardez, c'est là qu'on va ce soir. » Les deux filles écoutaient leur iPod en feuilletant les magazines de Michel, effleurant du regard des célébrités au teint de rose qui m'étaient inconnues. Je leur ai fait signe pour attirer leur attention, alors elles ont retiré leurs écouteurs, tourné la tête à l'unisson vers la fenêtre et acquiescé sans un mot, s'interrompant un instant comme pour me faire plaisir avant de remettre leurs écouteurs. Michel, qui paraissait somnoler en écoutant elle aussi de la musique, n'a émis aucun commentaire. Un peu plus tard, tandis que nous dînions sur la terrasse du restaurant de notre hôtel, nous avons été informés qu'un épais brouillard s'était abattu sur le Corcovado et que nous allions devoir annuler notre visite. Malia et Sacha n'ont pas semblé le moins du monde chagrinés. Je les ai observés demander la carte des desserts au serveur, un peu déçus par leur manque d'enthousiasme. Avec tout le temps que je passais à suivre l'opération en Libye, je voyais moins ma famille pendant ce voyage qu'à la maison, et cela ne faisait qu'alimenter mon impression, déjà bien trop fréquente, de ne pas voir grandir mes filles. Malia était presque une adolescente, un appareil dentaire scintillant, une drôle de queue de cheval, le corps étiré comme si, en l'espace d'une nuit, elle était devenue longue et fine, déjà presque aussi grande que sa mère. De son côté, à 9 ans, Sacha ressemblait encore à une enfant avec son gentil sourire et ses fossettes, mais je sentais changer son attitude envers moi. Elle me laissait moins souvent la chatouiller, s'impatientait et paraissait un peu gênée quand j'essayais de lui tenir la main en public. Je continuais à m'émerveiller de les voir aussi équilibrées toutes les deux, aussi bien adaptées aux circonstances étranges et peu communes dans lesquelles elles grandissaient, glissant sans heurts d'une audience avec le pape à une virée au centre commercial. Surtout, à l'école, elles se montraient allergiques aux traitements particuliers et aux attentions indues et ne demandaient qu'à être des élèves comme les autres. Le jour de la rentrée de Sacha en CM1, un de ses camarades avait tenté de la prendre en photo et elle avait eu le cran de lui arracher l'appareil en l'avertissant qu'il n'avait pas intérêt à réessayer. En réalité, elle préférait largement être chez leur copine parce que la discipline concernant les sucreries et la télé y était manifestement moins stricte, mais surtout parce qu'il leur était plus facile de prétendre qu'elle menait une vie normale, malgré la voiture du Secret Service garée dans la rue. Et c'était très bien comme ça, si ce n'est que leur vie était moins normale quand elles étaient avec moi. Je craignais de laisser filer les précieux instants que je pouvais passer avec elle avant qu'elle quitte le nid. « C'est bon », a annoncé Marvin en s'approchant de notre table. « Le brouillard s'est levé. » Nous nous sommes donc entassés tous les quatre à l'arrière de la bête, et peu après, nous roulions sur une route sinueuse et bordée d'arbres qui s'est arrêtée brusquement à la lisière d'une vaste esplanade baignée par la lumière des projecteurs. Une haute silhouette éblouissante paraissait nous appeler dans la brume. Tandis que nous montions une volée de marches en tendant le cou pour admirer le panorama, j'ai senti la main de Sacha attraper la mienne, et Malia a passé un bras autour de ma taille. « On doit prier ou un truc comme ça ?» m'a demandé Sacha. « Pourquoi pas ?» ai-je répondu. Alors nous nous sommes blottis les uns contre les autres, nous avons baissé la tête et fait silence, et j'ai su que ce soir-là, au moins une de mes prières avait été exaucée. Je ne peux pas affirmer que notre court pèlerinage au sommet du Corcovado ait permis d'exaucer mon autre prière. Ce que je sais, en revanche, c'est que les premiers jours de la campagne libyenne n'auraient pas pu mieux se dérouler. Les défenses aériennes de Kadhafi ont été rapidement anéanties. Comme convenu, les avions européens ont pris possession de l'espace, Sarkozy veillant à ce que le premier appareil à y pénétrer soit français, et attaquer les forces loyalistes qui avançaient sur Benghazi. Quelques jours plus tard, elles battaient en retraite et une zone d'exclusion aérienne et terrestre avait été établie sur presque toute la moitié orientale du pays. Malgré cela, en Amérique du Sud, je n'étais pas serein. Chaque matin, je m'entretenais par visioconférence avec mon équipe de sécurité nationale qui me transmettait les nouvelles du général Carter Ham, le commandant de l'opération, ainsi que de l'état-major au Pentagone. Après quoi, je passais en revue la liste des étapes suivantes. En plus de garder une vision claire de l'avancée de nos objectifs militaires, je voulais m'assurer que nos alliés remplissent leur part du marché et que l'action des États-Unis ne déborde pas des limites étroites que j'avais définies. Je n'oubliais pas que le soutien de l'opinion à cette mission ne tenait qu'à un fil et que le moindre revers pourrait se révéler catastrophique. Nous avons d'ailleurs eu une grosse frayeur. Le soir de notre arrivée à Santiago du Chili, Michel et moi étions invités à dîner par le président Sebastián Piñera, le milliardaire mondain de centre-droit élu l'année précédente. Assis à la table d'honneur, j'écoutais Piñera parler de l'intérêt croissant du marché chinois pour les vins chiliens, quand j'ai senti une petite tape sur mon épaule. C'était Tom Donilon, encore plus tendu que d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'est baissé pour me murmurer à l'oreille. « On vient d'apprendre qu'un de nos avions s'est écrasé en Libye. »« Abattu ?»« Problème mécanique. Les deux hommes à bord se sont éjectés avant le crash et on en a récupéré un, le pilote. Il va bien. » Mais on n'a toujours pas retrouvé l'officier des systèmes d'armes. On a des équipes de recherche tout autour du site et je suis en communication directe avec le Pentagone. Je vous tiendrai au courant dès qu'on aura du nouveau. » Tandis que Tom s'éloignait, Piñera m'a adressé un regard interrogateur. « Tout va bien ? » a-t-il demandé. « Oui, désolé, » ai-je répondu alors que divers scénarios, presque tous mauvais, défilaient dans mon cerveau. Pendant une heure et demie environ, j'ai souri et acquiescé à ce que Piñera et son épouse, Cecilia Morel Montes, me racontaient au sujet de leurs enfants, de leurs rencontres et de la meilleure saison pour visiter la Patagonie. À un moment, un groupe de folk rock chilien, Los Jaivas, a interprété ce qui m'a semblé être une version espagnole de Hair. Mais pendant tout ce temps, je guettais une nouvelle tape sur l'épaule. J'étais obnubilé par le jeune officier que j'avais envoyé à la guerre et qui était à présent sans doute blessé, qui avait peut-être été capturé ou pire encore. Je me sentais prêt à imploser. C'est seulement à l'issue du dîner, au moment où Michel et moi allions grimper dans la bête, que Tom nous a enfin rejoints, légèrement essoufflé. « On l'a retrouvé », nous a-t-il annoncé. « Apparemment, il a été récupéré par des rebelles libyens et il est hors de danger. » J'ai eu envie d'embrasser Tom, mais j'ai plutôt embrassé Michel. Lorsqu'on me demande de décrire ce que ça fait d'être le président des États-Unis, je pense souvent à ce long moment d'impuissance à la table d'un dîner officiel au Chili, sur le fil du rasoir entre un sentiment de réussite et une catastrophe potentielle, en l'occurrence un militaire et son parachute dérivant en pleine nuit au-dessus d'un lointain désert. Dans l'absolu, à chacune de mes décisions, je misais gros. Mais la différence avec une partie de poker était que, s'il est normal qu'un joueur perde plusieurs grosses mains au cours d'une soirée gagnante, à la guerre, la plus petite erreur pouvait avoir des conséquences tragiques et éclipser, auprès de l'opinion comme dans mon fort intérieur, une éventuelle réussite. Il se trouve que l'épisode de l'avion n'a pas fait beaucoup de bruit. À mon retour à Washington, les loyalistes libyens étaient mis en échec par la supériorité aérienne écrasante de la coalition et les milices de l'opposition, qui comptaient dans leur rang quantité de gradés ayant déserté l'armée de Kadhafi, commençaient à progresser vers l'ouest. 12 jours après le début de l'opération, l'OTAN en a pris les commandes et plusieurs pays européens se sont chargés de repousser les forces de Kadhafi. Quand je me suis exprimé devant la population des États-Unis le 28 mars, notre armée n'assurait presque plus qu'un rôle secondaire d'appui logistique, de ravitaillement et d'identification des cibles. Étant donné le nombre de républicains qui avaient réclamé une intervention, nous nous attendions à ce qu'ils nous félicitent de mauvaise grâce pour notre efficacité. Mais il s'était produit quelque chose d'intéressant durant mon voyage. Une partie de ces mêmes républicains avait changé d'avis. À présent, ils reprochaient à notre opération d'avoir été trop étendue ou trop tardive. Ils déploraient que je n'ai pas suffisamment consulté le Congrès, quand bien même j'avais rencontré les chefs de file des deux partis juste avant le début de la campagne. Ils mettaient en cause le fondement légal de ma décision, sous-entendant que j'aurais dû demander l'autorisation du Congrès, conformément au War Powers Act qui encadre les pouvoirs du président en matière d'engagement dans un conflit armé. Une question légitime et récurrente, si ce n'est qu'elle émanait d'un parti qui avait à maintes reprises donné carte blanche au gouvernement précédent pour la conduite de la politique étrangère, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de faire la guerre. Mais cette incohérence ne semblait pas tracasser les républicains. Ils m'informaient ainsi que les questions de guerre et de paix, de vie et de mort, faisaient désormais partie du jeu sordide et incessant de la politique partisane. Et ils n'étaient pas les seuls à jouer à ce petit jeu. Vladimir Poutine avait critiqué publiquement la résolution de l'ONU et, par ricochet, Medvedev, pour nous avoir accordé un mandat élargi en Libye. Il était inimaginable que Poutine n'ait pas approuvé la décision de Medvedev de voter blanc au lieu de mettre son veto, ou qu'il n'en ait pas saisi les conséquences. Et comme Medvedev l'a fait remarquer dans sa réponse à Poutine, si les avions de la coalition continuaient à bombarder les forces de Kadhafi, c'était uniquement parce que le dictateur libyen ne semblait pas décidé à se replier ou à maîtriser les groupes de mercenaires brutaux qu'il finançait. Mais ce n'était de toute évidence pas le sujet. En désavouant publiquement Medvedev, Poutine cherchait à déstabiliser le successeur qu'il avait pourtant lui-même choisi. Et quant à moi, j'étais bien obligé d'y voir le signe qu'il avait l'intention de reprendre la main en Russie. Toujours est-il que, à la fin du mois de mars, il n'y avait pas une seule victime américaine à déplorer en Libye, et pour un coût approximatif de 550 millions de dollars, à peine plus que le coût d'une journée d'opération en Irak ou en Afghanistan, nous avions rempli notre objectif en sauvant une agglomération et peut-être des dizaines de milliers de vies. D'après Samantha, c'était la première fois de l'histoire moderne qu'une intervention militaire internationale parvenait aussi vite à empêcher un massacre. Néanmoins, concernant le sort du gouvernement libyen, rien n'était sûr. Kadhafi ordonnait de nouvelles attaques malgré les bombardements de l'OTAN, l'opposition était alimentée par une alliance flottante de milices rebelles, et mes collaborateurs et moi redoutions une longue guerre civile. À en croire le diplomate envoyé par Hillary à Benghazi pour servir d'agent de liaison avec le Conseil national de transition qui s'y trouvait, l'opposition avait, à défaut d'autre chose, un bon discours sur l'après-Kadhafi et mettait en avant la tenue d'élections libres et régulières, les droits fondamentaux et l'état de droit. Mais sans tradition ni institutions démocratiques sur lesquelles s'appuyer, les membres du Conseil avaient du pain sur la planche, et à présent que la police de Kadhafi n'était plus là pour maintenir l'ordre, Benghazi et les autres zones rebelles commençaient à ressembler au Far West. « Qu'est-ce qu'on a envoyé là-bas » ai-je demandé au terme d'un de ses comptes rendus. « Un certain Chris Stevens » m'a répondu Dennis, ancien chargé d'affaires pour notre ambassade à Tripoli et avant ça plusieurs postes au Moyen-Orient. Apparemment, il s'est infiltré à Benghazi avec une petite équipe à bord d'un cargo grec. Il a une excellente réputation. « Courageux, ce type », ai-je dit.